Alors, on va continuer ce matin le passage des actes que nous avons commencé, hein. Donc, nous sommes en acte 11 et on va lire les versets 19 à 30. Acte 11, 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Donc, dans notre passage, nous lisons que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et il semble que ce nom était plutôt de l'extérieur, les personnes qui disaient: Ah, ce sont les chrétiens, ils se nomment les chrétiens. Ils les ont nommés comme cela. Pourquoi? Du fait de leur attachement à la personne de Jésus-Christ. Donc, ils étaient devenus les Christianos, en grec, hein, les chrétiens. Et on peut dire, c'est bien là la particularité des vrais enfants de Dieu, c'est qu'ils sont attachés à la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on emploie ce terme de chrétien pour un large pourcentage de la population mondiale, un tiers de la planète. 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de personnes disent « je suis chrétien ». Mais si on regarde ces 2 milliards de personnes, est-ce que véritablement ils sont tous attachés à la personne de Jésus-Christ? L'homme s'attache facilement à des reliques, il s'attache à des cérémonies, à une ambiance, il s'attache à une église, il s'attache à des icônes, il s'attache à des supports matériels de la foi, il s'attache à des médailles, à des petites croix, à des rites, à des traditions, à la mère de Jésus. Il s'attache à plein de choses. Mais est-ce qu'il s'attache vraiment à Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ? Est-ce que vraiment sur ces 2 milliards de personnes, ils sont liés à Jésus, ils sont, comme dit la parole, un sarment qui est attaché au cep? Le cep, c'est Jésus-Christ. Et le sarment reçoit la sève, il reçoit la vie, il reçoit la raison d'être. Est-ce que ces chrétiens sont vraiment attachés à Jésus-Christ? Si on fait un constat, on s'aperçoit que souvent, Jésus-Christ est un inconnu. On sait qu'il est le Fils de Dieu, sans aucun doute, mais l'homme qui se dit chrétien n'a pas forcément une relation intime, personnelle, profonde avec Jésus-Christ. Et quand je dis relation intime, ça ne veut pas dire réciter 10 fois ou 20 fois ou 100 fois. Le Notre Père. Ce n'est pas ça, avoir une relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, le connaître personnellement. Une relation, ça se constitue d'un échange. Il y a un dialogue quand on a une relation avec une personne. Il y a un partage. Et puis, il y a une connaissance réciproque. On le connaît, il nous connaît. Et c'est cela qui était visible dans cette église d'Antioche, dans cette première église, l'église primitive. Si on les a surnommés les chrétiens, c'est parce qu'on avait vu qu'il y avait un attachement à la personne de Jésus-Christ. Ils parlaient de Jésus,
Ils partageaient ce que Jésus avait fait pour eux. Ils entendaient Jésus aussi leur parler par les Écritures. Ils parlaient avec lui, ils priaient. Il y avait un échange et on pouvait dire que vraiment Jésus était devenu tout pour eux. Jésus-Christ était leur sauveur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir que Dieu bénit celui ou celle qui met Jésus-Christ en avant. La fin de ce chapitre 11, qui nous parle de cette Église, c'est l'histoire de la naissance d'une Église, c'est l'histoire de la croissance d'une Église, et c'est finalement l'histoire de la maturité d'une Église, une Église qui arrive à maturité. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cœur de cette Église, c'était Jésus-Christ. C'était lui qui était important. Tout d'abord, la conversion ou la naissance de l'Église d'Antioche. La semaine dernière, on a vu que c'était vraiment difficile pour les Juifs d'imaginer que Dieu voulait sauver tous les hommes. Pour eux, même le Messie, Jésus-Christ, était venu rien que pour les Juifs, rien que pour eux. Alors Dieu a parlé à Pierre par la vision de la nappe, on avait vu ça ensemble. Pierre a bien compris que non, l'Évangile et Jésus-Christ, c'est aussi pour les autres. Et puis ensuite, Pierre a parlé aux chrétiens qui étaient à Jérusalem. Et les chrétiens de Jérusalem, les Juifs, ont compris « Ah oui, alors l'Évangile est aussi pour tout le monde, il est aussi pour les autres. » Dieu aime, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais tous n'avaient pas cette connaissance. Et si on remonte dans le livre des Actes, on voit qu'il y a eu une persécution et qu'à ce moment-là, les chrétiens donc, qui étaient à Jérusalem ont fui un peu partout. Mais eux qui ont fui, ces Juifs chrétiens, n'avaient pas la connaissance, ne savaient pas que Dieu voulait sauver tous les hommes et pour eux, eh bien, ils continuaient à évangéliser les Juifs. Et c'est ce que l'on voit au verset 19, regardez. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne » allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc il y avait toujours cette séparation entre Juifs et païens qui était visible. Et ce n'était pas la volonté de Dieu, hein, mais eux, ils maintenaient cette séparation. Et il est possible que les Juifs qu'on dit hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient dans toutes les pays, les villes où on parlait grec, eh bien, ces Juifs-là avaient des rapports avec les païens qui n'étaient pas les mêmes que les Juifs de Jérusalem. Ceux de Jérusalem pratiquaient une séparation stricte. Ah non, les païens, c'est les chiens, on ne les fréquente pas. Tandis que ceux qui habitaient dans les pays grecs, eux, eh bien, peut-être avaient des relations qui étaient beaucoup plus proches avec les Juifs puisqu'ils vivaient au milieu d'eux. Et c'est ce qui a permis, eh bien, que l'Évangile passe finalement de ces Juifs à des païens. Regardez versets 20 à 21. « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et là, on a la caractéristique d'un chrétien qui est authentique. Il ne peut pas s'empêcher de partager ce qu'il a vécu. Il faut qu'il le dise. Il veut annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. L'homme peut parfois avoir des préjugés qui le retiennent de faire ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Et c'était le cas pour ces Juifs qui avaient fui la persécution. Ils ne se posaient même pas la question de parler de Jésus aux païens. Non, c'était pas pour eux. Mais les Juifs de Chypre, eux, n'avaient pas ce blocage. Alors, eh bien, ils ont eu la liberté par le Saint-Esprit, ils l'ont fait, ils ont parlé aux Grecs. Et on lit ici que la main du Seigneur était avec eux. Et c'est la première chose que j'aimerais souligner, c'est que la main du Seigneur est sur celui qui annonce Jésus-Christ. Si vous annoncez Jésus-Christ, alors la main du Seigneur est sur vous. Dieu veut que nous annoncions Jésus-Christ. Et il y a une vraie nécessité d'en parler, de le dire. La Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui l'annonce? il y a un ordre de partir. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il dit juste après, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a l'ordre, allez-y, partez, partagez. Et puis, il y a la promesse qui suit, je suis avec vous. La main du Seigneur est sur ceux qui annoncent la personne de Jésus-Christ. Il y a une approbation qui repose sur ceux qui répandent l'Évangile. Dieu les accompagne, Dieu bénit sa parole. Regardez verset 21, il est dit « Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et on voit vraiment l'approbation du Seigneur. Alors on peut se dire, mais c'est quand même rare aujourd'hui de voir un grand nombre de personnes croire et se repentir et se convertir au Seigneur. Mais il faut croire que cette ville d'Antioche, elle était prête, elle était mûre. Après des années de paganisme, d'idolâtrie, de prières vaines à des idoles qui ont des yeux et qui ne voient point, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, après ces années d'errance, alors les cœurs étaient prêts. Et quand ils sont arrivés, eh bien, ils ont saisi l'Évangile. Quand vous regardez le communisme et l'oppression qu'il y a eu, hein, communiste sur les pays de l'Est, quand, eh bien, ça a commencé à s'ouvrir, à tomber. Mais alors là, l'Évangile est rentré. Les cœurs étaient prêts. Ils étaient tout prêts. Ils avaient vécu ce qui est le contraire hein, de la foi en Jésus-Christ. Alors, eh bien, ils ont dit « Oui, c'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. » Pourquoi en France, le message de Jésus n'est pas reçu avec autant d'enthousiasme? Mais le salut des pécheurs ne dépend pas que de Dieu seul. Ça dépend aussi du cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme, eh bien, s'endurcit, se ferme, alors, eh bien, voilà, il se bloque et s'empêche de recevoir l'Évangile. On lit dans l'Évangile de Matthieu que Jésus, se rendant dans sa patrie, ne fit pas beaucoup de miracles là, dans sa patrie. Pourquoi ? À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité de l'homme empêche Dieu d'agir. Si l'homme n'est pas incrédule, s'il croit, Dieu agit. Mais si l'homme ne veut pas croire, alors bien Dieu n'agit pas. Il le laisse dans son incrédulité. Et malheureusement, je lisais que notre beau pays de France est parmi le top 10 des 10 premières nations les plus incroyantes sur cette terre. C'est incroyable, hein ? Bon, on est 9e. 9e. Mais ça n'empêche pas de continuer à parler de Jésus. La main du Seigneur est sur celui qui annonce la personne de Jésus-Christ. Dieu veut nous encourager à parler du Sauveur lorsqu'il dit « Qui sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. » Si Dieu regarde vos pieds ce matin, est-ce qu'il dit « Voilà, oh, il a de beaux pieds, elle a de beaux pieds, parce qu'elle annonce, il annonce Jésus-Christ. » Et alors, puisqu'ils ont annoncé Christ, alors, eh bien, beaucoup de personnes se sont converties à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se convertir à Jésus-Christ? Ces personnes se sont tout simplement tournées vers la personne de Jésus avec foi, en croyant que vraiment Jésus-Christ était venu sur la terre, qu'il était mort pour eux quelques années plus tôt. Finalement, ça ne remontait pas à loin pour eux. Hein. Et elles ont reçu le pardon de leurs péchés en croyant au message de l'Évangile. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Il faut le devenir et on le devient par l'action de Dieu. C'est Dieu qui nous fait devenir enfant de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean que ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en son nom, au nom de la lumière, de Jésus-Christ, eh bien, par l'action de Dieu, Dieu les fait naître à une nouvelle vie, une vie spirituelle. Ils deviennent enfants de Dieu. Donc, c'est un don. C'est Dieu qui le donne. Si on croit en son nom, alors Dieu nous donne la vie, il nous fait naître de nouveau, on entre dans une relation avec lui. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est écrit, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Quand les chrétiens de Jérusalem, donc il y avait cette ville d'Antioche, quand les chrétiens de Jérusalem ont appris que la ville d'Antioche avait aussi reçu l'évangile, tout de suite ils se sont dit, il faut qu'on envoie quelqu'un là-bas pour soutenir, aider. Et ils ont envoyé Barnabas. Regardez versets 22 à 24. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et on est ici dans la deuxième étape d'une église locale, petite église. Après la naissance, voici la croissance. On a maintenant un groupe de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et maintenant, il faut qu'elles soient enseignées dans le conseil de Dieu, dans la parole de Dieu. Et Barnabas va commencer à leur donner les premières exhortations. Et ici, c'est le deuxième point. On peut dire que la main du Seigneur est sur celui qui enseigne Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Elle est d'abord avec celui qui annonce Christ, elle est avec celui qui enseigne Christ. Et que va faire Barnabas ? Il va les exhorter à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur Jésus-Christ. L'accent est tout de suite mis sur la personne de Jésus-Christ dans l'enseignement. Il n'est pas question de s'attacher à des hommes, pas question de s'attacher à des rites ou de s'attacher à des nouvelles traditions, mais de s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Et c'est primordial de lier son âme à la divine personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est important. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le sauveur. Les religions humaines, si vous regardez l'ensemble des religions humaines, elles vous invitent à faire des choses. Faites ceci, allez là-bas, faites cela. Alors que l'Évangile vous invite à croire et à aimer une personne, la personne de Jésus. C'est une relation d'amour avec le sauveur d'une part, et avec le pécheur, d'autre part. Une relation d'amour, c'est ce que Dieu veut. Et parce que c'était ce qu'enseignait Barnabas, alors la main du Seigneur était également sur lui. On lit, une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Pas une foule nombreuse se joignit à Barnabas, mais une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Pas question de se joindre à une nouvelle religion, mais de se joindre à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus était comme un aimant qui attirait vers sa personne. Et Barnabas, quand il a vu ça, il a vu les âmes qui venaient, il s'est dit, mais je vais jamais y suffire seul. Alors, on lit versets 25 à 26, « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. » Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et quand l'œuvre grandit, petit à petit, Dieu ajoute aussi les hommes qui vont venir encadrer l'assemblée, qui vont venir enseigner l'assemblée. À noter ici qu'ils se réunissaient aux assemblées de l'Église, il est dit. Ça signifie qu'ils pouvaient à la fois être dans les maisons, mais aussi très certainement dans des lieux qui étaient un peu plus grands. Quand on lit qu'une foule nombreuse se joignit, que beaucoup se donnèrent à Jésus-Christ, mais c'était par dizaines, par centaines. Alors peut-être ils se réunissaient en plein air, peut-être ils se réunissaient dans des cours aussi, comme les maisons orientales avaient des grandes cours au centre. Peut-être qu'ils se réunissaient là. Et là, Barnabas et Saul enseignaient chaque jour les Écritures à ces nouveaux convertis. Et on voit que la main du Seigneur reposait sur eux, beaucoup
suivaient cet enseignement. Alors, qu'est-ce qu'ils enseignaient au juste? Ils enseignaient ce que nous avons aujourd'hui dans toute la parole de Dieu. Saul, qui était un juif versé dans tout l'Ancien Testament, eh bien, devait faire tous les parallèles. C'était devenu clair à son esprit. Hein. Alors, il faisait les parallèles. Regardez dans l'Ancien Testament, c'était déjà Jésus-Christ ici. Et regardez ce que Dieu maintenant attend de vous. Et puis aussi, il pouvait développer toute la vie de Jésus-Christ, qui était encore toute proche, ses œuvres, ses miracles, tout ce qu'il avait fait. Et puis, il donnait aussi ce qu'ils avaient reçu comme révélation. Et on voit l'apôtre Paul avait reçu une révélation vraiment de l'Église de Jésus-Christ. Et on trouve ça dans les Épîtres. Comment se comporter en tant qu'enfant de Dieu? Voilà, il répondait à ces questions. Il expliquait comment vivre dans la société, dans ce monde. Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Qu'est-ce que la sanctification? Comment, eh bien, avoir une vie qui se sanctifie? Quel rapport maintenant avec la loi de Moïse? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce que Christ attend de moi aujourd'hui? Quand Jésus-Christ va-t-il revenir? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la fin des derniers temps? Etc., etc. Et on voit l'enseignement des Écritures est vaste et profond. Et Dieu ne voulait pas que ces enfants qui venaient de croire en lui soient laissés à eux-mêmes, abandonnés, mais qu'ils reçoivent tout l'enseignement, toutes les clés, toutes les doctrines qui leur permettraient de vivre pour Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas croire qu'en un an, ils sont restés un an à enseigner. On ne peut pas croire qu'en un an, ils ont tout reçu. Ça y est, ils savaient tout, hein. C'est que non. Mais en tout cas, en un an, eh bien, c'était devenu une assemblée qui était solide, qui était nourrie, qui était capable de s'autogérer elle-même, de se reproduire et de servir Jésus-Christ. Ce qui m'amène à la dernière partie de ce que j'aimerais vous partager ce matin. L'Église d'Antioche est née, elle a été enseignée et maintenant, elle va devenir une Église qui est mature. Comment ? Par une mise en pratique des Écritures qu'ils ont reçues pendant toute une année et puis par un désir de se tourner vers les autres. Regardez Actes 11, 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et donc, on lit ici qu'il y a une famine qui a frappé toute la terre. Donc ça veut dire qu'elle a frappé aussi l'église d'Antioche et tous les chrétiens. Et voilà, tout le monde était frappé par cette famine. Lorsque cette famine arriva, l'assemblée d'Antioche n'était pas attachée à son argent. Les chrétiens n'ont pas couru pour ouvrir un livret A pour passer la crise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? On lit, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et d'abord, on peut noter le terme disciples. De jeunes convertis, ils étaient devenus des disciples. Avant, c'était la foule des croyants, et maintenant, c'était des disciples de la personne de Jésus-Christ. Ce qui sous-entend qu'il y avait une certaine discipline. Une habitude, des habitudes de vie, un caractère qui s'était formé petit à petit en eux. Ça, c'est les signes d'un disciple de Jésus-Christ. Et puis, il y a cette offrande qu'ils souhaitaient faire, qui était à la fois une décision collective et en même temps, c'était un choix individuel. C'était une offrande de l'église d'Antioche, mais qui se composait de dons volontaires des uns et des autres. Il est dit « chacun selon ses moyens ». Dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il est parlé de l'argent, on voit que c'est toujours selon ses moyens, c'est proportionnel à ses moyens, et c'est selon son cœur.
Ça veut dire que si dans notre cœur, on n'a pas envie de donner, mais qu'on ne donne pas. Hein, on n'est jamais obligé de donner quand passent les offrandes. Mais si, eh bien, on a le cœur qui veut donner, alors Dieu nous dit, bien, donnez, donnez.
Mais ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que la famine ne frappait pas simplement Jérusalem, qui était dans le besoin, mais elle frappait aussi Antioche. Ils vivaient la même épreuve. Et pourtant, dans la même épreuve, ils se sont dit, on va aider les frères qui sont à Jérusalem. On va faire une offrande pour les frères qui sont à Jérusalem. Et j'aimerais dire que la main du Seigneur est sur celui qui sert Jésus-Christ de cette manière. Il y a une nécessité d'annoncer Christ, d'enseigner Christ, et puis aussi de servir Christ de cette manière. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit être pratique. Elle doit nous pousser à l'action. Mais je reviens sur une chose importante. C'est avant de commencer à servir Christ, il faut d'abord s'être converti à Jésus-Christ. Il faut avoir donné son cœur d'abord à Jésus-Christ. Et c'est très important. Je souligne ça parce qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens, entre guillemets, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils savent qu'il est mort sur la croix. Ils croient en lui à leur manière, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Et ils veulent servir. Mais ce n'est pas possible. Il faut d'abord le connaître avant de le servir. Dieu nous invite d'abord à le connaître réellement. Dieu veut qu'on se convertisse à la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on entre dans une vraie relation avec le Père et avec le Fils. Une relation par son esprit. Et c'est possible parce que Jésus-Christ nous a ouvert l'accès. La relation avec Dieu était impossible du fait du péché. Mais le péché a été réglé sur la croix. Jésus a payé pour nos péchés. La relation est donc possible maintenant par Jésus-Christ. Dieu peut et veut donner le pardon à celui qui l'accepte. Mais il faut l'accepter, il faut dire « Oui, je crois, j'accepte, Seigneur, sauve-moi ». Et à ce moment-là, Dieu nous le donne. Il nous donne cette relation avec lui. Il nous fait naître de nouveau. On devient son enfant. Il nous devient favorable et accessible. Et soudain, quand on fait cette démarche, la personne de Jésus n'est plus accessoire. Elle devient vitale. Elle devient essentielle. Elle devient le cœur de notre vie. Jésus, ça devient la personne centrale. Parce que Jésus, la Bible dit, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Entre nous et lui, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Qu'une seule personne par laquelle on puisse passer à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est aussi notre avocat quand on veut nous accuser à cause du péché. Jésus prend notre défense. Il nous défend devant le Père parce qu'il a versé son sang pour nos péchés et nous pardonner. Jésus est aussi la victime expiatoire qui a expié nos péchés, qui nous ouvre les cieux. Il est notre pain, il est notre eau, il nous nourrit, il nous rafraîchit, il est notre salut. Et c'est ça être un chrétien, c'est être profondément attaché à la personne de Jésus parce qu'on a compris ce qu'il a fait pour nous et on l'a cru, on l'a accepté. Et c'est alors qu'on peut se mettre à servir Jésus-Christ. Lorsqu'on voit la spontanéité, la générosité au sein de leur affliction, ces premiers chrétiens d'Antioche, eh bien, c'était que la manifestation de Jésus en eux. Parce qu'ils s'étaient convertis à Jésus-Christ, alors ils étaient détournés des regards d'eux-mêmes et ils voulaient se tourner vers les autres. Et c'est ce qui a produit de la générosité au sein de leur épreuve. Et on a là le signe d'une église qui était jeune et pourtant d'une église qui était mature. Et Dieu veut que nous recevions et il veut que nous redonnions. Et la vie chrétienne, c'est ça. On reçoit et on donne. On reçoit et on donne. Et si on reçoit, c'est pour redonner. Ça, c'est un principe qu'il faut comprendre. Si Dieu nous donne beaucoup, il ne nous le donne pas pour nous-mêmes. Il nous le donne pour les autres. On peut, et je ne parle pas simplement de l'argent ici, hein. Je parle de tout, de toute la vie en fait. Si on reçoit beaucoup, c'est pour redonner. Et on peut prendre cette église de Jérusalem. On peut dire que l'église de Jérusalem, elle avait tout reçu du Seigneur. Imaginez ça. C'est eux qui ont vécu la Pentecôte. Les 120 qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Après cela, il y avait donc ces 120 qui commençaient à parler de Jésus partout. Beaucoup étaient des témoins oculaires. Ils avaient vu Jésus et ils en parlaient, etc. Et puis, il y avait aussi les 12 apôtres qui enseignaient, qui n'arrêtaient pas d'enseigner sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont beaucoup reçu. Ils étaient vraiment riches. Mais l'Église de Jérusalem s'est mise aussi à donner. On le voit ici. D'abord, ils ont envoyé Barnabas. Ils avaient un enseignant, la Bible dit, hein, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. On n'a pas envie de le perdre, un homme comme ça. Eh bien non, ils l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé. Après, on voit que plusieurs prophètes sont partis de Jérusalem à Antioche. De nouveau, des hommes, voilà, envoyés à Antioche. Et c'est le signe d'une église mature, c'est une église qui donne d'une manière ou d'une autre. C'est une église qui accepte de perdre et qui veut donner. De là l'importance de développer une vision qui est missionnaire, de vouloir eh bien, envoyer, de vouloir soutenir, de vouloir aider à l'extérieur. Il faut viser de donner, d'enrichir à l'extérieur. Et on le voit avec ces premiers chrétiens de Jérusalem. Lorsqu'on donne, qu'est-ce qui se passe? On reçoit. Et c'est ce qui s'est passé ici. Dieu a fait toujours les choses ainsi. Celui qui donne, reçoit. Celui qui garde, perd. Et si vous donnez, vous recevez. Et si vous gardez, vous perdez. C'est l'histoire de la vie à la fois chrétienne, mais aussi de la vie d'église. C'est toujours comme ça. Plus on s'accroche à ce qu'on a, et plus on le perd. Plus on le lâche, et plus on le gagne. La maturité, c'est donc de comprendre ce principe important. L'Église locale doit apprendre à servir, elle doit apprendre à donner. L'Église d'Antioche, ici, dans un temps qui était très court, est devenue une Église mature. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est souciée de ses frères et sœurs qui étaient à l'extérieur et qui étaient dans le besoin. Et c'est ce qui lui a valu aussi eh bien, de grandir, de se développer. Parce qu'on peut dire que cette église d'Antioche a eu une croissance qui était exponentielle. Si bien que quand on lit Acte 13, verset 1, regardez, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Donc Dieu avait pourvu aux personnes, aux enseignants, pour le bien des chrétiens d'Antioche, qui allait permettre eh bien, le développement encore plus et la croissance de l'Église. Mais que va faire cette Église d'Antioche? On voit dans la suite, hein, poussés par le Saint-Esprit, eh bien, ils vont envoyer Barnabas et Saul. Ils ont reçu Barnabas et Saul, ils envoient Barnabas et Saul. Et c'est toujours le même principe. On reçoit pour donner. C'est peut-être cette illustration que plusieurs connaissent, hein, mais du Jourdain. Le Jourdain est plein de vie. Et quand on arrive au lac de Galilée, ben c'est la vie à profusion. Mais le lac de Galilée reçoit du Jourdain et puis il donne ensuite. Hein, et après, ça arrive à la mer morte. Elle ne donne rien. Elle garde tout pour elle. Et elle est morte. Et Dieu veut qu'on soit plutôt le lac de Galilée, qui reçoit et qui donne, sans cesse, qui reçoit et qui donne. Et il reçoit encore. Alors on est triste, bientôt on va perdre un jeune couple. Hein? Tristan et Ruth, hein? Voilà, nos serviteurs vaillants et zélés. Mais on avait déjà perdu David. Hein?
on ne l'a pas perdu, on sait où il est. Mais voilà, c'est ça, c'est l'histoire de l'Église. Et c'est ça qui fait que l'Église est vivante. Hein. On donne, et c'est pour recevoir. Et on donne, et on continue comme ça. Qu'on puisse aussi les aider dans leur départ. Conclusion, est-ce que nous pouvons retenir ce matin? C'est d'abord qu'il est important de connaître la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous savez, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il est vivant. Ça veut dire qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui. On peut lui parler, il nous répond, on le voit nous répondre dans cette vie, et on a une relation avec lui. Cette relation, elle a été rendue possible parce qu'il a donné sa vie. Il est le seul sauveur. On a lu ce verset, il est toujours là. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a personne d'autre qui puisse vous donner accès à la personne de Dieu. Il est le seul qui a payé pour vos péchés. Il est le seul qui peut régler cette question. Il est le seul qui puisse vous pardonner. Connaître Jésus-Christ. Et ensuite, ce que nous pouvons retenir, c'est que la main est du Seigneur, la main du Seigneur est sur celui qui annonce Jésus-Christ. Annoncez Jésus-Christ. Même si parfois, eh bien, c'est... Voilà. Annoncez Jésus-Christ, partagez Jésus-Christ. La main du Seigneur est aussi sur celui qui enseigne Christ, qui partage les Écritures. Elle est sur celui qui sert Christ. C'est là la voie de la maturité. Et si on fait tout cela, alors on est sûr qu'on va aussi recevoir de Jésus-Christ. On va s'incliner dans la prière.